Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous allons tenter de comprendre la montée en puissance du groupe Al-Shabaab dans la ville de Palma au Mozambique. Et tout de suite, nous retrouvons notre invité Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Bruno Jaffré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur d'ouvrages sur la révolution burkinabé. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, tué lors du putsch de 1987. Êtes-vous soulagé ou restez-vous prudent ?
Je suis soulagé qu'il y ait un procès. On s'est beaucoup battu pour ça au sein du réseau Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique. On n'était pas les seuls d'ailleurs. Et bon, le seul problème, c'est que Blaise Compaoré ne sera pas présent, donc il sera jugé par contumace. Et donc là, c'est quand même pas un soulagement, c'est plutôt une déception de ce point de vue-là. Il est responsable de l'assassinat du président qui est aujourd'hui la référence de la fin du XXe siècle au Burkina Faso et en Afrique, et qui avait donné beaucoup d'espoir à l'ensemble de l'Afrique. Donc ils viennent répondre de ses actes, c'est la moindre des choses, s'il a un peu de courage.
On va dire responsable présumé, puisqu'il reste innocent.
Si vous voulez.
Voilà. Cette annonce intervient alors que la classe politique en tête, le président Rochma Christian Kabore, parle de plus en plus de nécessité de réconciliation. D'ailleurs, un ministre a été nommé, l'opposant Zéphirin Diabré. Cela ne vous inquiète-t-il pas ?
Ça nous inquiète un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est le chemin vers le retour de Blaise Compaoré ? Vous savez que Rochma Christian Kabore a dit pendant la campagne électorale dans le village natal de Blaise Compaoré que Blaise Compaoré reviendrait dans 6 mois au Burkina Faso. Alors, on peut considérer que c'est une promesse de campagne électorale, mais c'est relativement inquiétant. Donc, qu'est-ce qui se prépare au Burkina ? Voilà, ça c'est une question qui reste ouverte. Mais j'ai été au Burkina il y a un peu moins de 2 mois, et je peux vous dire que si Blaise Compaoré rentrait la tête haute, il y aurait beaucoup de problèmes dans le pays.
Mais du coup, est-ce que vous êtes confiant concernant ce procès ? Est-ce que vous croyez en l'indépendance de la justice ?
Bon, j'ai peut-être un excès d'optimisme en pensant que la justice reflète en partie la volonté du peuple, et la volonté du peuple burkinabé s'est largement exprimée pendant l'insurrection, qui est que Blaise Compaoré soit jugé. Ce que je pense, en tout cas, c'est que Blaise Compaoré sera condamné pour les faits qui lui sont reprochés, parce que bon, il y a des articles aujourd'hui qui paraissent au Burkina Faso, il y a une dizaine d'articles qui semblent probablement issus de ce qu'il y a dans le dossier judiciaire, et je peux vous dire que bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui accusent Blaise Compaoré, non pas de s'être défendu contre un pseudo tentative de l'arrêter le 15 octobre, mais il a organisé ce complot pas à la dernière minute, si vous voulez. Donc il y a beaucoup d'éléments dans le dossier. Moi, j'ai été plusieurs fois interrogé par le juge burkinabé, et celui qui a fait l'instruction, qui n'est pas celui qui vont juger, et j'ai relativement confiance dans sa volonté de mettre à jour la réalité de ce qui s'est passé.
La
difficulté auxquelles il a été confronté, c'est pas ce qui me semble, c'est pas des pressions de la part du gouvernement burkinabé, c'est du retard de la part des Français pour envoyer et pour répondre aux promesses du président Macron, qui a promis que la France fournirait tous les documents déclassifiés. On est loin d'avoir eu tous les documents couverts par le secret défense.
En mars dernier, justement, le réseau international Justice pour Sankara, dont vous faites partie, demandait aux autorités françaises de déclassifier et envoyer sans tarder à la justice burkinabé ces documents concernant l'assassinat de Thomas Sankara. Quelle suite a été donnée à votre requête ?
On n'a pas de suite. On a fait intervenir des députés. On a été en contact avec 2 députés qui sont intervenus, qui ont posé des questions écrites gouvernement pour lesquels ils n'ont pas encore eu de réponse. Bon, voilà où est-ce qu'on en est. Donc là, il n'y a pas de réponse.
Est-ce que vous accusez la France d'entraver la manifestation de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara ?
Alors, entraver, je vous laisse la responsabilité de ce mot-là. Ce qui est sûr, c'est que la France n'a pas envoyé tous les documents qui sont en sa possession pour juger de sa complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, est-ce que c'est une entrave à la justice? Pourquoi pas, finalement, parce que quand on ne donne pas tous les éléments pour qu'on puisse avoir la vérité, on entrave la vérité, donc on entrave la justice.
Le réseau international Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique, indiquait en mars dernier que plusieurs militaires et gendarmes burkinabés ont déclaré qu'il y aurait des agents de la DGSE venus à Ouagadougou détruire les écoutes téléphoniques. Est-ce que vous avez des preuves formelles confirmant ces soupçons?
Oui. Il y a trois ou quatre témoins qui sont cités dans ces articles qui sont parus dans la presse burkinabé, articles qui ont été construits très probablement sur la base de fuites qui sont sorties du dossier judiciaire. Et il y a trois ou quatre témoins qui affirment que des Français sont venus détruire les écoutes téléphoniques en présence de Jean-Pierre Palme, qui est lui-même un autre inculpé et qui était à l'époque, je crois, le chef de la gendarmerie.
Bruno Jaffray, merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.
Auteur d'ouvrages sur la révolution burkinabé.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et merci à vous d'être à l'écoute de votre émission. Ce soir, nous allons tenter avec nos invités de décrypter la crise qui se passe dans la ville de Palma, au Mozambique. Comment comprendre la montée en puissance du groupe Al-Shabaab qui a pris le contrôle la semaine dernière de cette ville? Avec nos invités, donc, certains, pour l'un qui est à Maputo, au Mozambique, Herculano Tumbo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, enseignant à l'école supérieure de journalisme de Maputo. Vous êtes également, Monsieur Tumbo, journaliste à TVM, c'est la télévision nationale du Mozambique. Emmanuel Dupuis, bonsoir.
Bon, je vous entends.
Merci d'être avec nous, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IFSE, à Paris. Vous êtes également auteur de l'article Mozambique, risque de contagion terroriste en Afrique centrale et australe. Et nous avons également le plaisir d'accueillir de Pretoria en Afrique du Sud, Lisenlo Vaudran. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Chercheuse à l'Institut d'études de sécurité, l'ISS à Pretoria. Et également avec nous à Paris, Régio Conrado. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes mozambicain, doctorant en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par M. Tumbo qui est à Maputo. Est-ce qu'on sait avec précision aujourd'hui, M. Tumbo, qui contrôle la ville de Palma?
Oui, bonsoir encore une fois. D'après les informations qu'on a, qui contrôle la ville de Palma? Ce sont les forces armées du gouvernement du Mozambique.
Donc ça, il n'y a plus d'inquiétude là-dessus parce que la version du gouvernement était jusqu'à il y a deux jours remise en cause par certains témoignages qui affirmaient que Al-Shabaab est encore dans la ville de Palma.
D'après les informations qu'on a, parce que nous, la télévision du Mozambique, on a une équipe qui suit tous les jours, qui se déplace vers la ville de Palma. Et puis, on voit même sur les images les interviews qu'ils font. Ils parlent avec les gens qui fuient la brousse dès que les forces armées arrivent. Donc on a l'impression que c'est vraiment les forces du gouvernement qui contrôlent. Il est vrai que on pense qu'ils sont toujours là, cachés quelque part, mais dans la ville, d'après même, il y a eu beaucoup de journalistes internationaux là-bas, parce qu'ils sont transportés par les hélicoptères du gouvernement pour faire le reportage. Donc, on croit que c'est vraiment les forces du gouvernement qui contrôlent la ville.
Est-ce que les populations, en quelques mots, ont commencé à retourner dans la ville de Palma?
Oui, j'ai vu des reportages. Tous les jours, on assiste des reportages. On lit aussi dans les journaux, même dans les journaux internationaux, parce qu'il y a beaucoup de journalistes internationaux là-bas, que la population commence à retourner. Mais la situation n'est pas toujours...
Elle reste précaire.
Oui, très précaire même.
Merci beaucoup, M. Toumbo, pour ce témoignage de Maputo. Je vais peut-être aussi m'adresser maintenant à Mme Vaudran. Jusqu'à il y a quelques mois, on parlait d'une relative accalmie dans cette ville de Palma et plus généralement dans la province entière. Qu'est-ce qui a provoqué cette reprise de violence encore plus forte ?
Oui, bonsoir. En fait, ça dure depuis 3 ans et nous avons vu tout autour de 2020 beaucoup d'attaques contre les villages, surtout dans le nord de province de Cabo Delgado. Donc, Palma, en fait, était presque... je veux dire, encerclé. Il y a pratiquement toutes les routes menant à Palma étaient impraticables à cause de l'insécurité. Et ces dernières semaines, on pouvait avoir accès seulement par bateau pour livrer des denrées alimentaires, etc. Donc la situation était, je veux dire, ces derniers mois, vraiment, tout indiquait que Palma est vulnérable. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup d'attention sur cette attaque à Palma parce qu'il y avait des étrangers, parce que c'est près des installations, l'infrastructure construite par Total pour les énergies LNG, etc. Mais en fait... Ça dure depuis 3 ans et il y avait la calmie, mais bon...
La situation restait un peu volatile.
C'était volatile. Il y avait la saison des pluies et puis il y avait aussi un manque de communication. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment une accalmie comme si les insurgés sont disparus, sont revenus à Palma. Non, ça continue dans les zones rurales autour de Palma et ça continue toujours. Bon, c'est la guerre, en tout cas, entre le gouvernement et les insurgés qui sont toujours sur place dans les zones du nord de Cabo Delgado, selon des informations.
Merci, ouais. Madame Vaudran. Alors, Monsieur Dupuis, est-ce qu'il y a un lien entre la reprise de cette violence et celle des activités de Total, ou il s'agit d'une simple coïncidence?
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, tous les analystes vous diront que la violence était une violence endémique, sporadique. Elle est en permanence une épée de Damoclès sur le développement donc de la possibilité d'exploiter cette énorme bassin gazier. Hein, c'est le bassin de Rovuma qui se trouve concomitant à la fois de la Tanzanie, enfin en offshore sur la des côtes tanzaniennes et mozambicaines. Ce n'est pas seulement une question que mozambicaine. L'activité de l'ISCAP, de l'État islamique de la province d'Afrique centrale, se focalise sur la région de Cabo Delgado. Bien évidemment, cela a des incidences avec le pays voisin. Ce n'est pas du tout lié, je crois, à la reprise de l'activité de Total, bien que sur les victimes, sur les 57 victimes, maintenant on en a le bilan un petit peu plus précis, il y avait évidemment un certain nombre de ressortissants étrangers qui ne travaillaient pas pour Total, mais qui travaillaient pour la société qui protégeait le champ pétrolier, le champ gazier, pardon, d'Afungi, sur lequel Total a investi, et en l'occurrence des Sud-Africains ce qu'on appelle une société militaire privée, DAC Advisory Group, qui assurait la protection, tant bien que mal, de cette méga usine, en fait il y en a deux, de chaîne de liquéfaction de Total. La question que vous posez sur le fait que la ville de Palma ait été libérée est une question particulièrement pertinente, puisque la ville de Palma a sans doute été libérée par les forces armées mozambicaines, péniblement, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas être reprise. D'ailleurs, pendant très longtemps, un certain nombre d'autres villes ont été pris puis repris. Et de ce point de vue, la stratégie du mouvement donc Al-Sunna ou Al-Shabaab au Mozambique n'est pas de s'enquister dans un territoire, mais bien évidemment de faire des excursions montrant la faiblesse des forces armées mozambicaines. Il faut quand même rappeler que les forces armées mozambicaines disposent que de très peu de moyens d'hélicoptères. Les hélicoptères blindés, quand ils sont intervenus, dès qu'ils ont été victimes des tirs, ont rebroussé chemin. Et ce ne sont pas les hélicoptères moins armés et moins blindés de DAC qui vont faire...
C'est-à-dire la société de sécurité sud-africaine. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Régio Conrado, s'il n'y a donc pas de lien entre cette offensive ou cette attaque de djihadistes et la reprise des activités de Total, alors que veulent-ils? Quelles sont les causes de cette violence?
D'abord, merci beaucoup. Jusqu'à présent, il est tout à fait compliqué de préciser quelles sont les causes de cette violence, puisqu'il y a effectivement plusieurs perspectives. À la fois, il y a ceux qui considèrent que c'est une question qui s'explique par la situation de la pauvreté et la question de délabrement de la présence de l'État dans cette région. Mais il y a ceux aussi qui considèrent qu'effectivement il y a des problèmes religieux, donc des contradictions dans l'interprétation même de la religion, donc de l'islam dans cette région.
Parce qu'il faut dire que Cabo Delgado est une province majoritairement musulmane.
Effectivement, et surtout dans la côte, parce que là on parle surtout dans la côte, parce que à l'intérieur de cette province, les choses sont un petit peu différentes. Même si vous pensez par exemple dans des districts comme Chiour et comme Ankouab, comme par exemple Mekouf, etc., plus au sud, ces problèmes ne se posent pas de la même manière. Mais lorsque vous montez un petit peu plus au nord, donc dans la région côtière, comme Akumia, Palma, Mosimada Praia, ce sont effectivement des régions où une partie importante, surtout des Makwa Lomwe, pratique effectivement la religion, donc l'islam. Mais cette explication aussi, elle est à la fois probable, mais elle pose aussi des questions. Donc, pour comprendre cette question, je pense que d'abord, il faut que nous comprenions que nous sommes dans un contexte où toute certitude à ce jour serait effectivement une hypothèse problématique. Donc, on ne sait pas très bien. Deuxièmement, une bonne partie des discussions autour de cette question, on comprend bien qu'aujourd'hui, la question du terrorisme dans cette province peut s'expliquer aussi par des questions qui parfois peuvent être considérées comme géopolitiques. Et c'est une question que l'un des anciens ministres du gouvernement du président Chissano, qui avait dit il y a peu dans la télévision nationale, donc la TVM, qu'effectivement il faut aussi penser qu'il y a des enjeux autour de l'exploitation.
Quand vous parlez d'enjeux géopolitiques qu'évoquait Joaquim Chissano, l'ancien président mozambicain, est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît?
En fait, ce n'est pas le président, mais c'est l'un des anciens ministres qui était le directeur exécutif de la région, donc de la SADC. Donc, d'accord. C'est lui qui avait dit, effectivement, qu'il y a des problèmes autour de l'exploitation de gaz dans cette province, puisqu'il y a des pays, comme par exemple, qui exploitent le gaz, qui ne seraient pas tout à fait confortables avec l'évolution rapide de l'exploitation du gaz dans cette province, parce que ça pose effectivement pas mal de soucis du point de vue de l'hégémonie qui existe dans ce cadre très petit, qui sont des pays exploitateurs de gaz. Donc là, effectivement, mais ça, c'est une hypothèse qui doit être vérifiée. Mais en fait, madame, si je me permets, toutes les discussions qui sont faites aujourd'hui autour de cette question à Cap Delgado, en fait, il y a une bonne partie des questions, des hypothèses qui sont formulées, mais qu'en fait aussi sont des hypothèses qui ne sont pas issues d'une compréhension locale des problèmes.
Merci beaucoup. On va vous laisser terminer dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et 18h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous essayons ce soir dans votre émission de comprendre les causes de la montée en puissance du groupe Al-Shabaab qui a pris le contrôle fin mars dernier de la ville de Palma dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Donc, avec nos quatre invités, Lisenlo Vaudran, chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, Hercule Otumbo, avocat, enseignant à l'École supérieure de journalisme de Maputo et journaliste à la télévision nationale mozambicaine. Et nous allons vous laisser terminer, Régio Conrado, doctorat en sciences politiques. Alors, vous disiez qu'il y a des enjeux géopolitiques qu'il faut prendre en compte dans ce conflit et qu'il y aurait également une concurrence entre les grandes puissances engagées dans l'exploitation minière.
Effectivement, c'est une hypothèse qui doit se poser. Après, en ce qui concerne effectivement cette question, pour terminer véritablement dans le contexte mozambicain, je voulais probablement insister sur un aspect. Il est tout à fait facile pour ceux qui ne connaissent pas véritablement la réalité mozambicaine d'affirmer haut et fort que l'armée mozambicaine n'est pas suffisamment forte. Mais pour ceux qui connaissent véritablement le contexte mozambicain, ils sont tout à fait clairs que l'armée mozambicaine depuis 92 jusqu'à présent n'a pas véritablement eu des investissements importants, n'a pas été modernisée en fonction des ajouts régionaux et de l'ajout de la sécurité nationale. Mais en même temps, si vous constatez la situation à Cap Delgado, si vous connaissez très bien la région, vous allez constater quand même que cette armée a réussi depuis 2017 à garantir une certaine sécurité, même si elle est fragile. Pourquoi ? Parce que toute réflexion, elle doit partir d'un point comparatif, même si comparaison n'est pas raison, mais on sait très bien, lorsqu'on étudie les questions dans le Sahel, on constate qu'une bonne partie d'États de cette région n'ont pas effectivement réussi non seulement à garantir la perpétuité de l'État, la pérennité de l'État, mais n'ont pas aussi réussi effectivement à s'imposer en tant que cadre de régulation locale. Pour le cas de Mozambique.
Pour terminer, s'il vous plaît, les autres doivent s'exprimer aussi.
Exactement. C'est pour dire simplement que la question des Palma, pour moi, je pense que le plus grand problème, c'est d'abord une certaine défaillance de l'intelligence militaire, qui est l'un des plus grands enjeux pour l'armée mozambicaine. La question de la contre-intelligence militaire, qui est aussi un grand problème, puisque ces deux questions-là, effectivement, aujourd'hui, sont un grand déficit pour l'armée mozambicaine. Donc,
Merci beaucoup, M. Conrado. Là, vous nous avez amené sur la réponse des autorités, mais dans cette première étape, j'aurais souhaité qu'on reste vraiment très rapidement, d'ailleurs, sur les causes. On essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu provoquer cette situation où on voit un groupe islamiste prendre le contrôle d'une ville, l'armée qui s'enfuit. C'était ça ma préoccupation première, M. Toumbo. Vous avez une réponse ?
Oui. C'était ça qui s'est passé. L'armée n'était pas aussi présente à Palma, mais au fur et à mesure, ce que nous avons constaté, d'après les informations qu'on suit, on a vu une armée qui, petit à petit, s'est mise en place. Jusqu'à aujourd'hui, la situation, ce que je disais dans ma première intervention, n'est pas encore... Il n'y a pas une sécurité... Quand on regarde, surtout à la télé, je regarde beaucoup les informations par la télé, on voit que c'est toujours la police, c'est toujours l'armée qui accompagne les déplacements des journalistes. Mais... au début, il y avait même à chaque fois des tirs.
Merci beaucoup.
Oui, vous disiez...
oui, allez-y.
Oui, ce que je vous dis, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on doit parler, c'est vraiment aussi la réponse non seulement du gouvernement mozambicain, mais aussi de la région.
Permettez, on va revenir là-dessus vers la fin de l'émission, M. Toumbo. Alors, Mme Vaudran, est-ce que vous pouvez me dire très rapidement, s'il vous plaît, résumer les causes de ce conflit? Monsieur Conrado a abordé tout à l'heure des enjeux géopolitiques. Il a aussi, à la fin de ses propos, avant la pause, parlé de ce manque de compréhension des besoins locaux. Il y a quand même une impression de manque de prise en compte des intérêts des populations locales qui peut-être alimentent cette violence.
Oui, absolument. C'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on essaye de comprendre. Le gouvernement mozambicain, malheureusement, n'a pas vraiment permis les chercheurs de se déplacer à l'intérieur de Cabo Delgado, ni les journalistes. Donc, mais ces derniers temps, on a pu interviewer quand même des déplacés pour comprendre, parce que ce n'est pas comme, par exemple, disons, Boko Haram, où on a plus ou moins une idée qui sont, leur leadership, etc. Donc, nous pensons à ISS, nous sommes un grand groupe, il y a certains de mes collègues qui sont partis là-bas, etc. Et nous pensons que c'est des différents facteurs. Il y a, on a publié un rapport en 2019 sur l'extrémisme radical qui est né justement à Mocimbo da Praia, là, une ville portière qui est plus ou moins occupée maintenant par les insurgés, mais c'est uniquement un seul élément. Ensuite est devenu les mines de rubis. Vous allez m'aider avec le nom en français. Des pierres précieuses. Beaucoup de gens ont perdu leurs terres. Après sont venus les projets gazières où les gens sont aussi perdus leurs moyens de vivre, par exemple les.
Donc ça a alimenté les frustrations et renforcé la pauvreté. Et les populations ont l'impression que les gens viennent s'enrichir sur leurs terres et qu'elles-mêmes ne voient pas la couleur de ces richesses.
On a vu ça partout en Afrique, ce qu'on appelle donc on a vu ça dans le Niger Delta, au Nigeria, etc. Mais il n'y a pas un seul facteur qu'on peut dire, voilà, c'est l'extrémisme religieux, ou c'est simplement parce que, comme dans le Sahel, souvent, Cabo Delgado, il faut comprendre, c'est aussi 2000 kilomètres de Maputo. Donc c'est une de ces zones, comme on peut peut-être dire, la zone entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, une zone faible où il n'y a pas une présence de l'État aussi fort que peut-être dans le sud du pays. Donc c'est un ensemble
une conjonction de facteurs.
Voilà.
Merci beaucoup.
Et comme vous disiez, un de vos intervenants, les questions géopolitiques, bien sûr, on ne peut pas les nier non plus, parce que l'État islamique, c'est une réalité, ça existe. Ils veulent bien dire qu'ils continuent à exister, donc ils ont réclamé certaines de ces attaques. Il y a beaucoup d'intérêts économiques sécuritaires dans cette zone de l'Afrique, et il y a aussi un dernier facteur, je termine par ça, un réseau de trafic de drogue, des trafics d'êtres humains dans cette zone. Donc ça aussi, ça ajoute à l'insécurité dans cette zone du Mozambique.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dupuis, hein, on a entendu Ansar Al-Sunna qui dire sa principale branche de Al-Shabaab dit vouloir instaurer un État islamique dans la région. Est-ce que on peut dire que le combat est aussi idéologique, c'est-à-dire le combat de ce groupe armé est aussi idéologique au-delà des facteurs que viennent de relever les précédents intervenants?
Oui, alors j'ajouterai, il y a plein d'autres facteurs aussi à rajouter à ce que vous, mes prédécesseurs ont dit. La question géopolitique est aussi une question régionale. Ne pas oublier quand même l'opposition fratricide entre les deux anciens présidents tanzaniens, Jakaya Kikwete, et le président Armando Guebuza. C'est bien le président Armando Guebuza qui a décidé d'exploiter seul ou d'ouvrir à l'exploitation étrangère cette zone qui se trouve répartie sur les deux zones économiques exclusives. Cela crée aussi quelques ressentiments. Il faut avoir à l'esprit que Ansar al-Sunna, comme vous l'avez mentionné, et son chef, Abu Yazir Hassan, ont longtemps été réfugiés en Tanzanie. Ils ont été chassés de Tanzanie. Ça aussi, c'est une conséquence. L'autre conséquence, et j'en viens aussi à votre réponse, c'est qu'il y a des tensions très fortes entre les forces armées mozambicaines et le président Felipe Nyusi. Ne pas oublier que l'ancien ministre de la Défense, qui est lui-même originaire de Cabo Delgado, Alberto Chipande, n'est pas forcément tendre avec l'actuel président. Ça aussi, ça peut créer aussi quelques interrogations. Une thèse qui circule serait qu'il y a effectivement une porosité, une perméabilité entre les services de renseignement et certains de ces militants. Certains disent d'ailleurs que la création de l'État islamique dans la province de l'Afrique centrale sert aussi les intérêts d'un autre acteur important, on en vient à la géopolitique, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont décidé, un peu à la surprise générale, de classer comme organisation liée à l'État islamique le mouvement Ansar al-Sunna, donc l'État islamique dans la province de l'Asie centrale, au même titre que les forces démocratiques alliées en République démocratique du Congo, au Nord Kivu. Ça a aussi une réponse, c'est aussi une réponse particulière. Quand vous classez une organisation proche de Daesh, vous rompez toute possibilité de négocier avec elle. Et donc vous la classez, vous la cornerisez, et vous créez un autre agenda qui...
une sorte de radicalisation.
Eh ben volontaire, mais qui n'est pas forcément induite par la réalité.
Monsieur Dupuis, vraiment en deux mots, et on va écouter Herculano Tumbo. Est-ce que vous nous dire concrètement comment est-ce que Al-Shabaab est devenu si puissant? Est-ce que son allégeance, on doit cela uniquement à son allégeance au groupe État islamique?
Non, son allégeance est purement opportuniste. Hein. Je vous rappelle qu'elle ne remonte qu'à avril 2019. Des actions ont été menées par les Chebabs du Mozambique avant d'être affiliés à Daesh. Et c'est parce que Daesh revendique maintenant un petit peu partout sur la planète des actions qui visent à lutter contre les États établis et accessoirement contre les États occidentaux qui les soutiennent, que qu'ils arrivent, j'allais dire, en deuxième rideau. Le fait de classer une organisation liée à Daesh permet aussi d'éviter de traiter les vrais problèmes. Vous les avez évoqués. 50% de la population du Mozambique vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les 5 000 milliards de mètres cubes que recèle le bassin du Rovuma pourraient permettre de doubler le budget de l'État. Donc, qui a intérêt à ce que l'on dise qu'il y a effectivement dans cette province une organisation proche de Daesh qui serait en lien organique avec Daesh? Je rappelle que les États-Unis ont décidé d'envoyer 12 rangers pour former les forces armées mozambicaines. Cela, évidemment, participe et contribue à radicaliser un peu la manière dont on va traiter la question à l'avenir.
Merci, Monsieur Dupuis. Monsieur Tumbo, parlons-en maintenant, la gestion de cette crise par Maputo. Comment appréciez-vous les mesures prises jusque-là par les autorités dès le début même de cette montée, de ces opérations de groupes djihadistes?
Oui, ce qu'on a vu tout d'abord le 5 octobre 2017, je crois que c'était un problème de classement de ce mouvement. Donc de 2017 jusqu'à 2020, on disait même au début que c'était des bandits. Et après, il y a eu un changement donc par rapport à l'appellation de ce groupe. Donc le gouvernement a commencé à appeler des insurgés. Et là, je crois que c'est là qu'a commencé aussi un grand changement vis-à-vis ces groupes, quoi. Aussi, en ce qui concerne la réponse du gouvernement, à partir du 24 mars, donc lors de la dernière attaque dans cette ville de Palma, nous avons constaté que le président de la République lui-même, M. Philippe Nyusi, n'a pas réagi. Mais le 7 avril, donc c'est la journée de la femme ici au Mozambique, il a dit dans un discours qu'il a dit que ces attaques étaient horribles et qu'il fallait revoir ce qui s'est passé dans ces années-là. Il a dit qu'il n'a pas eu un investissement fort dans l'armée. Mais le lendemain, ce qu'on a regardé, c'est le sommet de la double troïka qui a affirmé aussi qu'il faut une intervention régionale proportionnée. Une autre décision de ce sommet, c'était un sommet extraordinaire.
C'est de la SADC.
Jusqu'au plus tard, le 28 avril de ce mois-ci, un comité ministériel de l'organe de la Troïka doit se rendre à Palma.
Pardon de vous interrompre.
Le 29 avril.
Vous allez continuer dans ce sens dans quelques petits instants.
D'accord.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et qu'est-ce qui explique l'intensification des attaques du groupe terroriste Al-Shabaab dans la ville de Palma au Mozambique et quelles solutions apporter à cette situation? Nous en débattons avec Herculano Tumbo, journaliste à la télévision nationale du Mozambique à Maputo, Emmanuel Dupuis de l'IFS ici à Paris, Régio Conrado, doctorant en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, et Lisenlo Vaudran, chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria en Afrique du Sud. Je vous laisse terminer vraiment en 30 secondes, monsieur Tumbo, sur vos propos. Vous parliez de cette réponse sous-régionale qui a été proposée à l'issue du sommet de la SADC, mais sauf que le président mozambicain ne semble pas très prompt à accepter une réponse sous-régionale. Et d'ailleurs, à l'issue de ce sommet, il n'y a pas eu grandes décisions, à l'exception du déploiement d'une mission technique.
Oui, la réponse pour cela, on peut trouver aussi dans la législation mozambicaine. Il y a une loi de la défense, donc la politique de défense du Mozambique, ne permet pas que des forces étrangères viennent ici sans qu'il y ait une nouvelle loi par le Parlement. On se souvient que le Mozambique a eu des forces étrangères, par exemple les forces du Zimbabwe, était dans la province de Zambézia il y a quelques années de cela, lors de la guerre de 16 ans. Et c'était la population qui a demandé au président Joachim Chissano à l'époque de le renvoyer. Donc après, il y a une loi qui ne permet pas. Mais au niveau régional, donc j'espère qu'on va assister le 29 avril, le nouveau sommet de la double troca, peut-être que va insister sur le déploiement vraiment d'une force régionale dans la ville de Palma.
Merci. Puisqu'un sommet des chefs d'État est prévu justement dans le 29 avril. Messieurs, je vous prie d'aller vraiment très vite, madame évidemment, puisque nous avons une dame. Alors, Régio Conrado, s'il n'y a pas de réponse sous-régionale, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face à cette progression ou cette occupation de terrain par le groupe djihadiste?
Merci beaucoup, madame, une fois de plus. Mais voilà, permettez-moi de dire simplement que le gouvernement mozambicain n'a pas refusé l'appui des acteurs internationaux. C'est pas ça le cas. En fait, l'État mozambicain, ce qu'il ne veut pas, c'est l'intervention directe des armées ou bien des forces étrangères dans le territoire national. Mais ce qu'il accepte, en fait, aujourd'hui, c'est l'appui du point de vue de la stratégie militaire, les aider effectivement avec le matériau militaire, entre autres. Ça, c'est une question qu'aujourd'hui, il faut la préciser. Donc,
le président Philippe Nyusi a déclaré que, lors d'un discours à la Nation, que toute aide extérieure est là pour soutenir le Mozambique, non pas pour remplacer les Mozambicains.
Effectivement, c'est bien ça. C'est-à-dire quoi, précisément? C'est-à-dire, la doctrine nationale de la défense nationale, c'est que s'il y a effectivement des partenaires qui vont l'aider, ils doivent l'aider à faire en sorte que les Mozambicains puissent combattre eux-mêmes les terroristes qui sont à Cap Delgado. Ça, c'est une question qu'il faut la comprendre. La deuxième question, je pense que la solution pour le cas de Mozambique aujourd'hui, lorsqu'on parle de la question militaire, elle passe surtout par l'articulation avec la région. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui ne sortaient pas dans les discussions autour entre les chefs d'État et entre les états-majors de l'Afrique australe. Donc cette question, elle nous permet de dire effectivement, si on veut répondre à la question de Cap Delgado, d'abord la question militaire n'est pas négligeable. La question de la Tanzanie, comme disait M. Dupuy, il est effectivement une question qu'il faut la résoudre. Il faut effectivement que la Tanzanie devienne l'acteur majeur dans le contexte de la lutte contre ces groupes dans cette région. Mais cette question, elle reste encore un incognito. On ne connaît pas quelle est son issue. Et troisièmement, exactement. Aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle l'ADIN, l'Agence de développement intégré du Nord. C'est aussi une autre perspective pour dire si le problème sur le développement, et que je pense que d'ailleurs cette thèse est un petit peu faible, puisque tout le Mozambique aujourd'hui est en situation de pauvreté. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, pourquoi exactement dans cette province, pourquoi exactement dans cette région, il y a effectivement ce type de conflit? Donc la solution, elle passe par l'articulation, comme je disais, au niveau régional. Elle passe aussi par le partenariat d'aide à approfondir les connaissances de l'armée mozambicaine, donner beaucoup plus de capacités de renseignement et de la contre-intelligence militaire, d'aider en termes d'armes et d'autres types de matériaux militaires. C'est ça la solution.
Merci beaucoup.
Effectivement, voilà.
Merci, M. Conrado. Alors, Lizello, je suis désolée, vraiment, très brièvement, quelles sont les autres solutions possibles à ajouter à celles que vient de suggérer M. Conrado?
Oui, je suis
pour contrer la progression djihadiste.
Voilà. Avec ce qu'il disait, c'est possible qu'il doit avoir une intervention sécuritaire dans les médias pour sécuriser, par exemple, Pemba, où il y a maintenant tous les réfugiés, l'Afrique du Sud, qui est de très loin, j'allais dire, l'État membre de la SADC.
Le plus puissant.
Le plus puissant. Sauf que, bon, l'armée sud-africaine aussi souffre de beaucoup de problèmes. Mais bon, l'Afrique du Sud a investi massivement dans ses gaz, projets gaziers par les banques. Beaucoup de sous-traitants aussi espéraient avoir des créations d'emplois, etc. Donc il y a un intérêt financier, il y a un intérêt pour l'Afrique du Sud aussi de protéger ses citoyens, etc. Et puis c'est à notre porte. Donc le Mozambique, ce sont nos frères. Donc je pense que l'Afrique du Sud, en tout cas ce que nous comprenons d'ici, c'est que l'Afrique du Sud est prête à envoyer ou à participer à une force, éventuellement si le Mozambique le permet. Et puis ça sera vraiment juste une solution de court terme.
Merci.
Pour sécuriser la région, parce que la solution, comme disaient vos intervenants, de long terme, c'est par le ADIN, c'est par le développement, c'est pour éviter que les jeunes qui sont au chômage, qui sont frustrés, rejoignent ces groupes.
C'est
le même scénario.
Merci.
Ailleurs avec le djihadisme.
Dans le Sahel et au Nigeria, évidemment, avec Boko Haram, ou encore Al-Shabaab en Somalie. Monsieur Dupuis, en une minute, s'il vous plaît, force sous-régionale, mais le Mozambique n'en veut pas. Alors, comment éviter que cela ne concerne finalement, que ça devienne un problème sous-régional?
Alors, effectivement, la communauté pour le développement d'Afrique australe a fait des propositions. Néanmoins, une organisation internationale ou intergouvernementale, ce sont des États. Je ne suis pas sûr que le Mozambique ne veuille pas d'une force régionale, mais le Mozambique regarde avec beaucoup de circonspection un certain nombre de pays qui ont déjà eu une présence militaire. Ça a été évoqué avec le Zimbabwe. Il y a aussi la surpuissance ou la considération du fait que l'armée botswanienne est sans doute celle qui pourrait intervenir également. Il y a peut-être une crainte d'avoir, comme en Somalie, la présence d'armée forte dans les États faibles ou dans des régions faibles qui ferait aboutir à une moindre responsabilisation de l'État. Et puis il y a, au-delà de la dimension régionale, et je vais aller très vite, la proposition européenne. Ça va très très vite. Il y a quelques jours a été décidé l'envoi d'une mission de formation des forces armées européennes. Il y a déjà une soixantaine de forces armées portugaises qui vont se rendre, mais d'ici quelques semaines, il y aura une mission européenne, une EUTM, une mission de formation des forces armées mozambicaines. Ça a été décidé il y a quelques jours, quelques heures même, par le comité politique de sécurité du Conseil de l'Union européenne. Ce n'est pas encore voté, mais ça va être présenté au Parlement européen la semaine prochaine, et on aura, à côté de ce qui existe au Mali, à côté de ce qui existe en République centrafricaine, une mission de formation EUTM Mozambique qui va se mettre en place.
Merci.
Avec, et je termine, l'extension de la zone d'opération de l'opération européenne Atalanta qui vise à lutter contre la piraterie. La proposition européenne, c'est d'étendre son rayon d'action de la côte nord de l'océan Indien.
Merci.
Vers Syrie Sud.
Merci beaucoup Emmanuel Dupuis de l'Institut de prospective IPSE, Lizello Vaudran, Régio Conrado et Herculano Tumbo, avocat et journaliste à la télévision nationale mozambicaine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette édition du Grand Rendez-vous. Bonsoir.